a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis au micro de présentation John Lyndon. Fred assure la production de cette émission, mise en onde de Vasco Volanchi. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vasco Volanchi, autant pour moi. Vous êtes sur VO Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Les candidats à la Maison-Blanche se sont lancés dans une course frénétique pour mobiliser et convaincre ce week-end les derniers indécis d'une présidentielle inédite par la violence des attaques personnelles dont l'issue mardi s'annonce serrée. À coup de célérité, ou plutôt de célébrité pour la studieuse Hillary Clinton et des discours plus tempérés pour l'impétueux Donald Trump, les prétendants à la fonction suprême semblaient adopter des stratégies inversées pour gagner le sprint face à la cacophonie des sondages. Ça passe ou ça casse avait lancé il y a quelques jours la candidate démocrate de 69 ans, dont l'avance face à son rival s'est réduite dans les sondages depuis la relance de l'enquête du FBI sur son serveur privé quand elle était chef de la diplomatie. Le suspense côté sondage concerne surtout une douzaine d'États clés où les deux camps concentrent leurs déplacements. La démocrate y domine dans une majorité de sondages récents, mais des résultats contradictoires laissent les commentateurs perplexes. Dans l'Amérique et vous ce soir, nous parlons donc d'élections présidentielles américaines et surtout de comment votre chaîne VO Afrique va couvrir cet événement. Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous, Nanit Talani, nous lira quelques réactions sur Facebook. Vous pouvez évidemment nous appeler directement au 001 202 619 31 40. Et pour nous accompagner dans cette émission, j'ai autour de moi Timothée Donangmaï. Il est le rédacteur en chef de VO Afrique. Timothée, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir John et bonsoir à nos auditeurs.
Voilà, et à ma droite, vous ne pouvez pas le voir, mais c'est Nathalie Barge du service français de VO Afrique. Nathalie, bonsoir.
Bonsoir John.
Voilà, c'est un plaisir de t'avoir. Bagassi Koura est également là, c'est le chef service Bambara de VO Afrique. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir John, bonsoir à tous.
Et évidemment, nous aurons également Firmin Max Koyaweda du service Sango de VO Afrique. On va commencer tout de suite par Timothée. Qu'est-ce que j'allais dire, quel est le menu que VO Afrique a concocté pour ses nombreux auditeurs?
Alors John, bien évidemment, ces élections présidentielles et législatives du 8 novembre, c'est le grand rendez-vous tant attendu depuis 4 ans par VO Afrique. Donc, sans surprise, nous avons mobilisé toutes nos ressources pour couvrir ces élections sur toutes nos plateformes, en radio, sur Internet, sur Facebook, en télé. Donc, nous sommes très mobilisés pour cette présidentielle. Pour ce qui est de la radio, notre couverture va commencer dès la nuit de lundi, avec des bulletins d'information toutes les heures qui vont continuer mardi. Et mardi, donc on va avoir sur notre stream et nos fréquences FM des bulletins chaque heure qui vont faire le point de l'élection. Et au niveau de la rédaction pour la nuit des élections de 5h30 à 7h temps universel, nous aurons une couverture étendue de ces élections avec nos envoyés spéciaux à New York et également des experts, des analystes qui vont intervenir pour nous éclairer sur cette élection. Donc nous sommes très très mobilisés sur toutes les plateformes.
Alors merci Timothée Donangmaï. On va accueillir Fabrice Kouam Kamdem qui nous appelle depuis la Floride. Fabrice, bonsoir.
Merci, bonsoir John, et bonsoir à tous vos invités et à vos auditeurs.
Alors Fabrice, vous êtes un jeune Africain et vous êtes mobilisé dans le camp démocrate. Vous faites partie de ceux qui travaillent pour Hillary Clinton. Comment ça se passe sur le terrain quand on sait que la Floride reste l'un des états clés de cette campagne?
Je crois que vous l'avez dit, la Floride reste même ce que j'appellerais the battleground state. C'est l'enjeu. L'État de Floride, c'est l'État, c'est le swing state qui a le plus grand nombre de délégués. Vous comprenez donc que la bataille ici est rude. Il y a peut-être deux semaines, on croyait les dépipés, on croyait déjà à la victoire. Mais avec la relance des enquêtes par le FBI, ils ont encore donné du travail, les chiffres ont commencé à baisser et maintenant nous sommes vraiment au coude à coude.
Voilà, donc vous restez avec nous. Nathalie Barge, vous avez la particularité de voter pour la première fois cette année, il me semble.
Oui, c'est ça.
Alors, comment est-ce que vous vous sentez de vous mettre dans cette position de choisir, de faire partie de ceux qui, ou de celles qui vont choisir le futur président des États-Unis?
Ben, un petit peu la même position qu'auparavant, sauf que c'était dans un autre pays, notamment la France. Mais c'est vrai que c'est un grand moment et particulièrement cette année en plus, parce que c'est vrai, il y a vraiment un débat présidentiel qui est vraiment particulier.
Alors, et ce matin, je rappelle que Nathalie travaille avec nous dans le service français et en conférence de rédaction ce matin. On évoquait la question des femmes qui sont dans la course dans cette élection. Et on parle plus d'Hillary Clinton. Il y a pourtant une autre.
Oui, bien sûr, on parle plus d'Hillary Clinton et de Donald Trump, hein, forcément. Il y a une autre femme, effectivement, dans les cinq, on va dire, principaux candidats, mais après Hillary Clinton et Donald Trump, il y en a trois autres. Et elle s'appelle donc Jill Stein. C'est la candidate du Parti Vert. Elle a 66 ans. Elle est médecin de profession. Elle est diplômée d'Harvard. Elle est née à Chicago, donc, dans les années 50. Elle a brigué deux fois le mandat de gouverneur dans l'État du Massachusetts en 2002 et 2010, sans succès. Et à l'élection présidentielle de 2012, elle avait obtenu 470 000 votes à peu près, mais compte faire mieux cette année, bien entendu. Et c'est une dame qui fait quand même beaucoup parler d'elle. Elle a beaucoup de chance parce qu'il est dit, selon des sondages récents d'ailleurs, que aux États-Unis, ce sont les moins de 30 ans qui risqueraient, qui pourraient le plus voter pour des candidats qui sont moins connus. Vous savez que les deux premiers sont assez controversés. Et donc, elle aurait beaucoup de chance, notamment au niveau de la jeunesse, par rapport à son programme, en fait. Elle fait beaucoup parler d'elle. Hein. Elle rejoint un petit peu Bernie Sanders. Elle veut un système de santé universel. Elle veut abroger les frais universitaires. Elle veut annuler les dettes contractées par les étudiants, à mettre en place un moratoire sur les saisies de maisons. Et en plus de ça, la question du climat, c'est très d'actualité. Les jeunes aiment ça. Il y a la question des universités. En ce moment, il y a la COP21. Et elle a aussi choisi une colistière, une femme qui s'appelle Thierry Onkala et qui lutte depuis des années contre la pauvreté.
Voilà, tout un programme très intéressant qui pourrait faire d'elle, effectivement, une présidente. Je vais accueillir Bagassi Koura, chef service Bambara à VOA Afrique. Alors, Bambara, qu'est-ce que vous avez prévu, vous? Bambara, c'est bien. On parle Bambara au Mali et où encore?
Un peu, dans plusieurs pays de la sous-région, mais pour l'instant, le programme Bambara est beaucoup plus concentré sur le Mali. On a des FM à Bamako notamment, à Tombouctou et à Gao. Et on a 8 correspondants sur place, de Kidal en passant par Kaï, Sikasso et Bamako. Bien sûr que tous ne sont pas encore opérationnels pour des raisons administratives. Donc on couvre assez bien le Mali. On a un programme phare quotidien qui est Mali Koura, qui passe chaque jour de 17h à 17h30 temps universel. Et bien le jour des élections, ce programme va bien sûr être essentiellement consacré à cette présidentielle. Et nous avons aussi prévu une émission spéciale qui va passer très tôt le matin, mercredi matin, c'est-à-dire vers 2h du matin ici aux États-Unis. Ce sera entre 7h30 et 8h temps universel le matin. En ce moment, on s'est dit qu'on aura probablement déjà les résultats et donc on pourra donner les analyses sur ce qui est sorti des urnes et aussi apprécier comment est-ce que cette journée de ce 8 se serait déroulée. Donc on a une équipe qui est ici. On aura aussi une couverture à Bamako avec Kassim qui va participer notamment à la soirée électorale qui sera organisée, je crois, par l'ambassade des États-Unis. Et on a quelqu'un qui sera aussi à New York, Kadiatou Traoré notamment, où les deux candidats les plus en vue, Donald Trump et Hillary Clinton, devront prononcer leur discours de victoire ou de défaite, c'est selon, on verra. Et donc, elle sera sur place pour nous faire vivre l'événement. Et bien sûr, on aura notre Facebook Live toute la journée. Et la page Facebook, c'est VOA Bambara.
Voilà, disons également que pour parler des Facebook Live, que VOA Afrique, le service francophone, va également faire du live pour donner un peu les tendances et comment est-ce que le vote se déroulera. Max, j'allais dire Firmin Max Koyaweda, vous êtes du service Sango. On parle aussi élection de ce côté-là?
Tout à fait. Nous avons également, à l'instar de tous les autres services, nous avons également prévu quelque chose. Nous ferons beaucoup plus de travaux de synthèse spontanée. Nous comptons également joindre des personnes issues de la communauté centrafricaine résidant ici, mais qui ont le droit de vote, c'est-à-dire ceux-là qui ont la citoyenneté américaine. Nous allons contacter en direct, nous serons en direct pour prendre le pouls des différents point de vote et également pour parler avec nos compatriotes pour voir comment ça se déroule. Et par ailleurs, nous avons également l'organisation de la nuit électorale qui sera tenue en duo par l'ambassade des États-Unis en Centrafrique et le club VOA de Bangui. Et donc, nous serons également en direct avec eux. Nous allons également beaucoup nous baser sur des échanges sur notre page Facebook. Et je compte à le préciser, nous aurons aussi en partage le direct qui sera sur la page de VOA Afrique, sur notre page VOA Sango. Pour l'instant, c'est le peu qui a été prévu.
Voilà donc le décor de ce programme. Je vais reprendre Fabrice Kouam. Au niveau de la Floride, comment se comporte votre candidate comparé à Donald Trump?
Je crois que ici, les démocrates sont beaucoup plus mobilisés parce que nous avons commencé un travail de terrain depuis longtemps. Ce qui veut dire que les républicains ont un peu pris du retard sur nous par rapport à cela. Mais vous savez qu'en Floride, il y a principalement deux counties seulement les plus populaires qui sont démocrates. La grande majorité de la Floride est républicaine. Donc nous sommes en train de nous déployer à nouveau sur le terrain. Ce sera comme ça jusqu'à mardi pour aller faire du porte-à-porte, aller dans les boutiques, les shopping, essayer de convaincre ceux qui ne sont pas encore enregistrés, parce que jusqu'à samedi, on peut encore s'enregistrer à voter. Et nous croyons que c'est seulement comme ça qu'on pourra vaincre, parce que si elle gagne la Floride, les carottes sont cuites pour Trump.
Voilà. Tim voulait dire quelque chose?
Oui, John, il faut aussi donner crédit au candidat républicain Donald Trump. Un homme orchestre, parce que pratiquement c'est lui seul qui bat campagne. Il est vrai qu'il a
son parti le soutient pas.
Voilà, il a ses enfants qui l'aident un peu, mais son parti, les leaders du parti,
l'ont disent abandonné.
Qu'ils sont bon, pas, ils l'ont pas officiellement. Le président du Parti républicain
est
le soutient.
Mais
il dit il faut soutenir le candidat qui a été retenu par la convention du parti. mais les personnalités, les principales personnalités de ce parti, que ce soit au niveau du Sénat ou de la Chambre des représentants, en général, ces gens-là se tiennent à l'écart de Donald Trump, dont lui seul bat campagne et il réussit à tenir tête à Madame Clinton. Il faut dire que c'est quand même quelqu'un tour de force remarquable.
Et même la semaine dernière, il a dû faire un transfert de 10 millions de son compte personnel. De campagne.
Alors moi, je vais poser la question à Nathalie. Comment est-ce que, de manière générale, vous avez couvert, vous, cette campagne depuis le début aussi en tant que journaliste? Comment est-ce que vous la voyez comparée aux autres? On a parlé d'une campagne un peu dure, un peu bas niveau même, parfois.
Bah, le nouveau, c'est déjà qu'il y a une femme, n'est-ce pas? Enfin, c'est en tout cas dans les deux principaux candidats. Et oui, moi, je l'ai trouvé, enfin, voilà, en essayant d'avoir un regard un petit peu distancé, j'ai trouvé cette campagne verbale extrêmement dure, effectivement, entre les deux principaux candidats. Bon, petit à petit, malheureusement, on commence à s'y habituer, c'est-à-dire qu'on a un petit peu l'impression que c'est dans la tradition électorale américaine, finalement, de s'envoyer des petits pics comme ça, vraiment des insultes même. C'est allé très loin, comme chacun le sait. Mais voilà, c'est un petit peu, c'est comme ça ressemble un peu à un match de boxe en fait. Hein.
Donc, merci Nathalie. On va prendre quelques réactions sur Facebook. Nanit Talani est là pour nous les lire.
Les réactions qui m'ont le plus marqué sont celles des personnes qui misent sur Trump pour les changements des régimes en Afrique, qui sont beaucoup marquées par des présidences à vie. Nous avons Pires Fernando Jao de Luanda. Il dit que lui préfère Donald Trump à la tête de la présidence aux États-Unis parce que lui, au moins, avec lui, notre continent d'Afrique aura peut-être un changement avec sa rigueur et nos présidents respecteront leur constitution. Et puis, il y a aussi François Conga qui dit pourquoi au nom américain le nom du président Obama a été élu, qu'est-ce qu'il a fait pour les Africains, la guerre en Libye, la promotion de l'homosexualité. Il dit que pour nous Africains, celui qui sera élu le sera pour les Américains et pas pour les intérêts exclusivement africains et ça ne sera pas la fin du monde. Donc voilà.
Et d'autres réactions encore?
Oui, il y a un qui m'a particulièrement intéressé, Alain Baraka de la RDC. Il dit que beaucoup de gens craignent que ça soit Trump car on pense qu'il pourrait mettre fin au rêve américain des Congolais qui jouent chaque année au Dev Lottery. Oh. Ouais. Donc ça veut dire qu'il pourrait bloquer la carte green qu'on donne, la green card qu'on donne souvent aux Africains, parce qu'il paraît qu'il est contre l'immigration.
Alors vous avez deux dernières.
D'accord. Et puis il y a Kissinger Kikingi qui dit que pour sa part, il pense que M. Trump représente une nouvelle ère de la politique américaine, longtemps tenue par un groupe de personnes sans une vision réelle de l'évolution mondiale. Étant homme d'affaires, Trump rendra aux États-Unis sa position de leader économique mondial dont et par ricochet sa puissance militaire. Donc, au lieu de dominer par des guerres, les USA vont dominer en faisant des affaires. Donc, pour cela, M. Trump est bien placé par rapport à Hillary. Et enfin, il y a Muhammad Raphaël Ndiaye qui dit qu'il pense que Hillary ou Trump, peu importe, pour nous, les Africains, nous avons vu tout ce qui s'est passé aux États-Unis avec Barack Obama. Donc ça, c'est presque la même réaction. La dernière, c'est celle de Daouda Sankara qui est au Burkina Faso. Il dit, il pense qu'Hillary Clinton est mieux outillée pour la présidence cette année que Donald Trump, parce que Trump n'a que des injures à la bouche, mais Clinton, par contre, est d'un tempérament calme et d'une sagesse imposante.
Voilà, c'est des réactions qui nous sont venues donc de Facebook. Quelqu'un voudrait y réagir, Bagassi?
Non, pas directement à ces commentaires de Facebook. En écoutant notre auditeur en Floride, je parle sous la supervision de Tim et de Nathalie. Je crois que la campagne ne prend pas fin comme en Afrique. Jusqu'à mardi, on a toujours des gens en train de mobiliser les électeurs pour aller aux urnes. Et comme Tim, vous êtes là, je voudrais que peut-être vous pouvez revenir sur une expression ou une loi dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, surtout nous, les fonctionnaires du gouvernement, le Hatch Act. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça fait quand même une grande différence avec ce qu'on voit sur le continent.
Alors, le Hatch Act, c'est cette loi qui interdit aux fonctionnaires fédéraux de s'engager dans des activités politiques partisanes sur le lieu du travail. Je précise sur le lieu du travail parce que dans la vie privée, une fois qu'on est au quartier, on peut faire ce qu'on veut. Mais quand on entre, comme ici, au siège de la Voix de l'Amérique, c'est un immeuble fédéral. Donc, il y a des conditions très précise en ce qui concerne l'activité politique. Par exemple, Bagassi, vous ne pouvez pas débarquer ici avec une casquette
Donald Trump
ou bien Hillary Clinton. Ça, c'est non. Vous ne pouvez pas, Nathalie, venir avec des prospectus de Madame Jill Stein ou du candidat libertarien Gary Johnson et ici dans les couloirs distribués aux gens. Ça, c'est non. Donc, il y a des dispositions comme ça qui sont destinées à assurer la neutralité des fonctionnaires fédéraux par rapport au processus électoral.
Alors j'ai une question. J'ai le technicien, Fred, qui veut savoir pourquoi Obama et Biden se permettent d'utiliser les moyens du gouvernement pour aller battre campagne, le président et le vice-président.
Alors, c'est les seuls, au niveau du gouvernement fédéral, c'est les deux personnalités qui sont autorisées à mener des activités politiques dans ce sens. Tout le reste du gouvernement fédéral, tout le monde est tenu d'observer la plus stricte neutralité dans le cadre de son travail.
Alors,
j'aurais voulu ajouter quelque chose au sujet du fait de faire très attention pour ne pas faire de politique au travail. C'est même, dans mon cas particulier, ça a même été extrêmement difficile parce que je couvre une rubrique femme. Et comme on a Hillary Clinton qui est une tête d'affiche, n'est-ce pas? J'ai l'habitude pour d'autres présidents, d'autres femmes qui sont chefs de gouvernement ou autres, lorsque la moindre chose se passe, d'ailleurs, on publie ces articles dans ma rubrique, on en parle, on fait des émissions. Mais là, du coup, c'était beaucoup plus difficile pour Hillary Clinton parce que je ne pouvais pas me permettre de focaliser sur cette candidate, bien que ce soit une femme.
Alors, Fabrice Kouam, est-ce que le 8 novembre, vous serez toujours en train de battre campagne pour votre candidate?
Ah oui, bien sûr. Le 8 novembre, nous devons même aller chercher les gens qui ne peuvent pas se déplacer pour les amener vers les bureaux de vote. Ça se fait jusqu'à ce que les bureaux de vote soient fermés. Nous devons être permanemment en activité, permanemment en train d'aller vers ceux qui ne sont pas encore décidés ou ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer et tout. Ce sera jusqu'à la gare, pas de répit.
Alors, John, à ce propos, au niveau des bureaux de vote, il y a un périmètre
dont sont
exclus, les partisans, les militants des différents partis. Au-delà de ce périmètre, eh bien, vous avez tout à fait le droit de donner des affiches aux gens qui viennent, de leur dire, par exemple, de montrer un exemplaire du bulletin de vote pour leur dire, ben voilà, ici, si vous cochez ici, vous votez pour notre candidat.
Alors, une autre particularité que beaucoup de gens de l'étranger ne comprennent pas, la plupart des États, on n'exige pas de pièce d'identité pour voter. Comment on peut expliquer cela? Comment ça fonctionne?
Bon, ben, c'est que traditionnellement, les gens qui vivaient dans des petites communautés, des petits districts, tout le monde se connaît, parfois dans un village où il y a peut-être une centaine de personnes, tout le monde se connaît. Donc traditionnellement, les gens ont toujours voté comme ça. Mais la situation est en train
de changer,
notamment dans le milieu urbain, et puis avec l'afflux des nouveaux immigrants et tout. Donc la situation se complique et aujourd'hui en Virginie par exemple, il faut avoir une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Voilà, donc on va prendre une petite pause et puis on va revenir pour un dernier tour de table. Voilà, vous êtes sur VOA Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous, nous parlons d'élections aux États-Unis et de ce que VOA Afrique va faire en tant que média. Justement, on a beaucoup parlé des médias au cours de cette élection. Je me rappelle d'ailleurs que Trump est un peu révolté contre ces médias-là. Comment se fait-il qu'ils influencent tant l'élection aux États-Unis, cette année particulièrement?
Ben, je pense que... C'est une plateforme qui est beaucoup utilisée. Je pense que Trump est peut-être même la personne qui a le plus bénéficié de la présence sur la télévision, hein, parce que à cause de son charisme, partout où il partait, la télévision était là. Et par contre, ça c'est pas toujours bénéfique quand cette vidéo où il parlait de façon insultante des femmes est sortie. C'était aussi partout sur les médias. Donc les médias ont quand même joué les partitions lors de cette campagne.
Voilà. Il faut dire, Bagassi, que si les médias sont très actifs ici, c'est parce que contrairement à l'Afrique où il y a une commission électorale qui, dans certains cas, veut tout centraliser, ici les élections relèvent des États. De ce qu'on appelle les secrétaires d'État de chaque État qui organisent ces élections. Et en fait, c'est tellement décentralisé puisque c'est au niveau des comtés que tout s'organise, si bien que chaque bureau de vote est presque autonome. Et donc, à partir de là, quelqu'un peut collecter les résultats au fur et à mesure que les bureaux ferment et qu'on les donne. Donc, il n'y a pas une autorité qui, au niveau fédéral, centralise tous les résultats. Tout se passe au niveau des États.
Alors, Nathalie, un mot sur les médias?
Les médias par rapport à quoi? Par rapport à l'influence?
Oui, à l'influence des médias dans cette présidentielle.
Moi, j'ai remarqué que oui, les médias, forcément, il y a la liberté d'expression, les médias s'expriment énormément, parlent beaucoup des élections, mais j'ai remarqué aussi qu'il faut faire très attention, en fait, parce que il y a parfois des petites limites qui sont un petit peu passées.
Tout à fait.
Et voilà, c'est un constat qui a été fait. Il faut bien faire attention à ce qu'on lit quand on travaille dans les médias, quoi.
Voilà, Firmin, en quelques secondes.
Il suffit juste de se référer aux méfaits de la informations pour se rendre compte de l'importance cruciale qu'est celle des médias au centre d'un événement aussi grandiose qu'est les élections que représentent les élections qui viennent. Et je dirais que dans toute bonne guerre, l'information est très très cruciale et on compte avec.
Voilà. Fabrice, un mot de la fin sur les médias?
Je crois que les médias ont assez bien joué leur partition. Certains accusent Fox d'être très républicain, d'autres accusent NBC d'être très
libéral,
et CNN d'être démocrate, ainsi de suite. Et comme a dit le frère tout à l'heure, celui qui a vraiment pu se bénéficier des médias aura été Trump. Malheureusement, ça n'a pas toujours été dans le bon sens pour lui, parce que il a multiplié les gaffes et les journalistes ont pu découvrir cela. C'est ça l'actualité.
Merci Fabrice, merci à tous nos invités, merci à Tim, à Bagassi, à Firmin, à Nathalie. Fred assurait la production de cette émission. Vasco Volarich était à la mise en onde. Merci, chers auditeurs, de rester fidèles au programme de VOA Afrique. On va couvrir pour vous cette campagne et restez scotchés sur Facebook et sur Internet à l'adresse www.voafrique.com. Merci.